VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 19 décembre. Au sommaire ce soir.
RDC, le mandat de Joseph Kabila prend fin à minuit. Kinshasa à l'aspect d'une ville morte.
La Côte d'Ivoire, dans l'attente des résultats des législatives.
En Syrie, reprise de l'évacuation des civils à Alep alors que l'ONU a approuvé l'envoi d'observateurs sur le terrain.
Le FMI va se prononcer sur le sort de Christine Lagarde après sa condamnation en France pour une négligence financière en 2008.
Aux États-Unis, les grands électeurs votent aujourd'hui pour confirmer l'élection de Donald Trump.
L'économie et les sports, juste après le journal.
Techniquement, le mandat du président congolais Joseph Kabila s'achève ce lundi 19 décembre, mais il est encore au timon des affaires à Kinshasa à la faveur d'un accord avec une frange de l'opposition. Accord rejeté par un rassemblement d'opposants qui négocie une sortie de crise sous les auspices de l'Église catholique. L'opposition n'a pas lancé de mots d'ordre de manifestation, mais Kinshasa à l'aspect d'une ville morte. Thierry Kabundi de Top Congo FM fait le point.
Le Congo a vécu au ralenti ce 19 décembre 2016, date marquant la fin du mandat du président Kabila. Dans la plupart des villes, les activités ont tourné au ralenti. Écoles, entreprises et autres activités commerciales n'ont ouvertes que timidement. À noter une manifestation des étudiants de l'université de Kinshasa dans la matinée qui n'est cependant pas allée loin. Même constat à Lubumbashi où le réveil de la ville a été poussif. Beaucoup de gens se sont contentés d'observer la situation dans la matinée avant de sortir, nous a dit un grand commerçant de la place. Situation timide également à Mbandaka, à Mbujimayi, à Kisangani, à Bukavu et à Goma. Par contre, des manifestations contre le pouvoir du président Kabila ont été dispersées par la police à Beni au Nord Kivu et à Butembo, une attaque matinale des Maïmaï a fait 7 morts, dont un policier, un casque bleu de la MONUSCO et 5 assaillants. Dans toutes ces grandes villes de la République démocratique du Congo, une présence renforcée des forces de l'ordre était perceptible. Ce 19 décembre s'achève sur de nombreux appels au calme et à la recherche de la paix par le dialogue, alors que le rassemblement de l'opposition continue de rappeler que Joseph Kabila est en fin mandat, n'a plus la légitimité pour diriger le pays. D'où l'incertitude autour de l'après 19 décembre 2016, les discussions de la CENCO ne reprenant que le mercredi 21 décembre courant. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Dans le Nord Kivu, toujours en RDC, 5 rebelles, un casque bleu sud-africain et un policier congolais ont été tués ce matin lors de combats à Butembo. Les assaillants, des présumés Maïmaï, ont attaqué la prison et d'autres lieux, selon le porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper Bass. La MONUSCO condamne cette attaque.
Par ailleurs, au moins 20 personnes sont mortes dimanche dans un éboulement de la mine d'or de Makungu, dans le sud Kivu. L'éboulement de cette mine à plus de 200 km au sud de Bukavu aurait été provoqué par des pluies très abondantes.
Les États-Unis vont demander au Conseil de sécurité de l'ONU de se prononcer sur l'instauration d'un embargo d'un an sur les armes au Soudan du Sud. Il est extrêmement important de voter cela avant la fin de l'année, a estimé Samantha Power, ambassadrice américaine à l'ONU. La France et le Royaume-Uni sont favorables, mais la Russie et la Chine ont fait part de leur opposition.
En Côte d'Ivoire, après les élections législatives d'hier, les yeux sont rivés sur la commission électorale qui doit maintenant annoncer les résultats. Abdourahmane Dia.
Il s'agissait des premières élections sous la nouvelle constitution adoptée par référendum en octobre dernier. Et cette fois encore, les électeurs ivoiriens ne se sont pas mobilisés en masse devant les bureaux de vote. Joël Nguesson, le porte-parole du RDR, le parti au pouvoir, a salué le bon déroulement, rappelant que le vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Il demande à tous, y compris ceux qui avaient appelé au boycott, à reconnaître les résultats. L'opposition avait boycotté les législatives de 2011, mais Pascal Afinguesson, le patron du FPI, qui lui a participé au scrutin de cette année, espère que les Ivoiriens vont rétablir l'équilibre politique à l'Assemblée nationale. Les résultats officiels seront proclamés par la commission électorale indépendante, qui a d'ailleurs mis en garde contre les chiffres publiés sur les réseaux sociaux, avec certains candidats qui se déclarent déjà vainqueurs.
Le président gambien Yahya Jammeh sera déclaré renégat s'il refuse de céder le pouvoir à la fin de son mandat en janvier, a annoncé dimanche l'opposition gambienne. Tout président qui perd sa légitimité constitutionnelle devient un renégat, a déclaré Khalifa Sallah, porte-parole de la coalition d'opposition qui a porté Adama Barrow au pouvoir lors de la présidentielle du 1er décembre.
Dans le centre du Nigeria, au moins 6 personnes ont été tuées dans des violences communautaires à Dan Anacha ce week-end entre éleveurs Fulani et agriculteurs, a annoncé aujourd'hui un commissaire de police de l'État de Taraba. Le journal Guardian avance un bilan de 18 morts. Les violences entre agriculteurs et éleveurs sont fréquentes autour des droits de pâturage dans le pays.
En Égypte, un dirigeant d'un groupe armé a été tué lors d'une descente de la police dans son appartement au Caire, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Un policier a été tué dans des échanges de tirs. Mohamed Abdelkhalek Farag Ali est présenté comme un chef du groupe Hasm qui a revendiqué un attentat le 9 décembre qui avait coûté la vie à 6 policiers.
Le président du conseil d'administration du groupe audiovisuel public sud-africain SABC, Mbulani Obert Magouvé, a donné sa démission, a annoncé aujourd'hui le président Jacob Zuma dans un communiqué laconique sans préciser la raison de son départ.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des milliers de personnes ont pu quitter ce lundi le secteur rebelle assiégé d'Alep en Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution pour déployer des observateurs à Alep afin de superviser les évacuations et évaluer la situation des civils. Salwa Jafari.
À la sortie ouest de la ville, les convois de bus circulent sans interruption. 75 au total ce lundi. À leur bord, plus de 5000 personnes, direction d'autres zones rebelles dans le nord du pays. Fatema Al-Abed, la mère de la fillette Banna qui avait tweeté la semaine dernière depuis Alep, quitte sa maison, la mort dans l'âme.
Je suis triste de quitter mon pays. Je vais y laisser mon âme. Je veux être libre, mais en tant que réfugiée d'un autre pays. Je souhaite un bon avenir pour ma fille, mais ils nous poussent dehors.
Il reste au moins 7000 personnes dans une poche rebelle à Alep-Est, totalement ravagée par 4 ans de guerre. Le régime de Bachar el-Assad a finalement reconquis la quasi-totalité de la seconde ville du pays après une violente offensive depuis le 15 novembre. Le Conseil de sécurité a décidé lundi à l'unanimité, y compris la Russie alliée du régime syrien, de déployer des observateurs à Alep pour y superviser les évacuations et évaluer la situation des civils. Cette résolution proposée par la France marque le premier signe d'unité entre les puissances mondiales face à un conflit qui a fait plus de 310 000 morts depuis mars 2011.
Christine Lagarde, la patronne du FMI, a été condamnée en France sans encourir de peine pour négligence dans une affaire datant de 2008. Son avenir à la tête du FMI dépend du conseil d'administration qui devait se pencher sur le cas aujourd'hui. Éric Manirakiza.
Christine Lagarde a été jugée dans une affaire de 404 millions d'euros donnée à Bernard Tapie en 2008. Ministre de l'économie à l'époque, Madame Lagarde a, contre l'avis d'un organe consultatif, fait recours à un arbitrage privé pour mettre fin à une longue bataille judiciaire entre le Crédit Lyonnais et Bernard Tapie sur un contentieux d'achat d'équipements sportifs Adidas. Reconnaissant dans le procès que le risque de la fraude lui a totalement échappé, Christine Lagarde a assuré avoir agi avec pour seul objectif la défense de l'intérêt général. Malgré la culpabilité d'une négligence coûteuse pour les deniers publics retenus contre elle, la Cour a décidé de ne pas la condamner à une quelconque peine. Le conseil d'administration du FMI doit se réunir la semaine prochaine pour statuer sur le sort de Mme Lagarde, qui a été reconduite en février dernier dans ses fonctions pour un second mandat de 5 ans.
Selon plusieurs sources, l'ambassadeur russe en Turquie a été tué. Il a été blessé dans une attaque armée à Ankara. Selon l'AFP, le diplomate Andrei Karlov a été blessé quand un homme a ouvert le feu sur lui alors qu'il visitait une explosion d'art dans la capitale turque. Il a été transféré à l'hôpital et il n'y a pas longtemps, on a annoncé la nouvelle de la mort de l'ambassadeur Andrei Karlov.
Le Conseil OTAN Russie, en veilleuse depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, a tenu sa troisième réunion pour l'année 2016 à Bruxelles. Les pays membres de l'Alliance Atlantique ont appelé Moscou à user de sa considérable influence sur les rebelles pro-russes de l'Est de l'Ukraine pour faire enfin respecter les accords de cessez-le-feu de Minsk. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a également appelé tous les signataires à respecter leurs engagements. Le conflit ukrainien a déjà fait plus de 9600 morts.
En Israël, les autorités ont assigné à résidence l'un des hommes les plus riches du pays, le milliardaire franco-israélien Benny Steinmetz. Il a été entendu par la police dans une vaste affaire de corruption et de blanchiment d'argent, rapporte l'AFP, citant un communiqué de la police. En 2014, un rapport gouvernemental guinéen avait recommandé l'annulation de la concession minière accordée à Benny Steinmetz pour la mine de fer géante de Simandou, estimant qu'il avait obtenu par corruption ce qu'avait réfuté le groupe de M. Steinmetz.
En Argentine, le système ferroviaire et l'aviation civile étaient perturbés ce lundi par une grève. À l'appel de la Confédération argentine des employés des transports, le métro n'a pas fonctionné non plus dans la capitale, Buenos Aires. L'opposition et le président libéral Mauricio Macri s'affrontent sur le dossier des impôts. Macri, qui a éliminé une taxe sur les entreprises minières, s'oppose à une réduction sensible du niveau d'impôt sur le revenu principalement pour les classes moyennes.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco qui vous est présentée par Eric Manirakiza.
Ethiopian Airlines vise un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars en 2025. Pour y arriver, la compagnie va presque doubler sa flotte à 140 appareils avec 77 avions et dessert actuellement 93 destinations internationales. Détenue à 100% par Addis Abeba, Ethiopian Airlines a reçu un prêt de 159 millions de dollars de la Banque africaine de développement BAD pour l'expansion et la modernisation de sa flotte. Entre 2014 et 2015, elle a réalisé un bénéfice net record de 165,4 millions de dollars. Au Kenya, le stock de la dette publique a progressé de 5 milliards de shillings. Selon la Banque centrale, cette dette porte son encours global à 1810 milliards de shillings. Les analystes du groupe financier sud-africain Standard Bank estiment que les emprunts du trésor public soutiendront le marché des capitaux dans le pays. Fait aujourd'hui à Libreville de l'Assemblée générale constitutive de la Confédération des artisans et des petites entreprises d'Afrique centrale, cette rencontre initiée par le ministère gabonais de la promotion des petites et moyennes entreprises a permis aux participants d'échanger sur une meilleure structuration de l'économie de l'artisanat et des petites entreprises d'Afrique centrale.
L'actualité sportive ce soir, c'est avec Nicolas Pineau. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Retour demain pour les champions d'Afrique de beach soccer à Dakar.
Les Sénégalais qui ont remporté leur quatrième titre ce week-end à Lagos. Les Lions de la Teranga ont remporté l'édition 2016 en battant en finale le pays organisateur, le Nigeria, 8 buts à 4. Les Lions remportent ainsi leur quatrième titre de champion d'Afrique après ceux conquis en 2008, 2011 et 2013. En plus de ce sacre, le Sénégal a réussi un sans faute durant ce tournoi en remportant tous ses matchs. A noter que le Sénégal et le Nigeria seront les deux représentants africains à la Coupe du Monde de beach soccer. Ce sera aux Bahamas l'année prochaine.
La Guinée-Bissau dévoile une pré-liste de joueurs sélectionnés pour la CAN 2017.
Oui, le sélectionneur Bassirou Kandé a dévoilé une présélection de 35 joueurs bissau-guinéens pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Parmi les sportifs convoqués, 9 n'ont jamais porté le maillot des Tchourtous, notamment beaucoup de joueurs qui évoluent au Portugal, comme Pelé, Yassaldé, Francisco Junior ou encore Mesca. A noter que l'attaquant Amido Baldé, passé par le FC Metz et actuellement à Maritimo au Portugal, n'a pas été convoqué, tandis que Bakunjika, sans club, fait partie de cette liste. On rappelle que la Guinée-Bissau jouera dans le groupe A lors de la CAN face au pays organisateur, le Gabon, le Cameroun et le Burkina Faso.
Parlons basket, NBA, championnat nord-américain.
Les Clippers de Los Angeles ont craqué face à Washington, défaite 110 à 117. Ils rétrogradent ainsi à la 4e place de la conférence Ouest, tandis que San Antonio a surclassé la Nouvelle-Orléans 113 à 100. Philadelphie a renoué avec la victoire après 8 défaites consécutives. Les Sixers ont battu les Nets de Brooklyn 108 à 107 grâce à 33 points. Nouveau record personnel pour Joel Embiid, le pivot camerounais. Malgré cette victoire, Philadelphie reste dernier de la conférence Est. Enfin, Dallas, 15e et dernier de la conférence Ouest, s'est offert sa 7e victoire face à Sacramento, 99 à 79.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pineau, que l'on retrouve à 19h, temps universel, dans Sporama.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Heureux d'être en votre compagnie, Nathalie Barge et Gaby Dorsil. Place au dossier du jour. Première escale, la République démocratique du Congo.
Kinshasa et d'autres grandes villes de la RDC ont connu une ambiance de ville morte aujourd'hui. La présence policière était remarquable. Des cas d'arrestation, dont celui de l'opposant Franck Diongo, ont été signalés. Quelques chaînes de médias privés ont vu leurs signaux coupés. Eddy Sango a joint le coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Georges Kapiamba.
À Kinshasa, l'atmosphère générale était de ville morte, avec le fait qu'aucun leader de l'opposition ni de la société civile n'avait lancé des appels dans ce sens. On a constaté que la population elle-même a préféré de rester à la maison, ce qui fait que la plupart des magasins, des bureaux, des administrations n'ont pas fonctionné aujourd'hui. Nous avons noté quelques échafaudés aux cités universitaires de l'UNICI, de l'Université de Kinshasa, sans arrestation. Nous avons noté l'arrestation de l'opposant Franck Diongo avec ses deux gardes de corps par les éléments de la garde républicaine. Très tôt le matin, deux chaînes de télévision ont vu leur être interrompu par le gouvernement, à savoir la chaîne de télévision CCTV de Jean-Pierre Bemba et une chaîne de télévision dénommée Ralik. À Lubumbashi, selon sur le terrain, on notait l'arrestation de 6 personnes au niveau du quartier de Camille. 4 ont libéré, sont encore en détention jusqu'au moment où je vous parle. À Goma, nous avons enregistré 25 personnes arrêtées, dont 12 membres de l'opposition nommément identifiés, un membre du mouvement Lucha. On a dispersé par-ci par-là de personnes qui voulaient se regrouper pour pouvoir manifester.
Est-ce que les gens ont quand même essayé de manifester?
Tout attroupement de plus de 10 personnes ou déjà de 10 personnes était immédiatement dispersé.
Monsieur Franck Diongo était le seul opposant à appeler les peuples à manifester. Est-ce que vous pensez que son arrestation est liée à ces déclarations?
Son arrestation est liée à cet appel-là parce que lui, effectivement, avait refusé de participer au dialogue. Il a eu même à critiquer à plusieurs reprises ses collègues du Rassemblement qui avaient accepté de participer au dialogue, considérant que c'était une trahison de la volonté populaire. Selon ses gardes, ils avaient constaté qu'il y avait la présence des éléments de sécurité qui étaient positionnés déjà non loin de sa résidence, comme pour dire qu'il était lui-même surveillé, qu'il ne pouvait pas sortir.
Georges Kapiamba est le coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Il était joint à Kinshasa.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Mali, polémique autour du communiqué conjoint signé le 11 décembre entre le gouvernement malien et l'Union européenne sur la migration. Bamako dit qu'il n'a signé aucun accord. La population malienne, se basant sur les termes de gestion de la question migratoire, pense que le Mali est dans une dynamique de signer un document. Actuellement, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, celui des Maliens de l'extérieur, sans oublier le porte-parole du gouvernement, ont fait plusieurs sorties sur les médias sans convaincre l'opinion. Kassim Traoré.
Depuis le 11 décembre, une polémique s'est installée entre les Maliens et certains membres du gouvernement suite à la signature d'un communiqué conjoint
avec l'Union européenne sur la question migratoire. Abdramane Sila, ministre des Maliens de l'Extérieur.
Cette histoire d'accord signé entre le Mali et l'Union européenne, c'est faux et cela relève que de la malversation. Le Mali n'a pas signé d'accord pour dire que nous allons rapatrier les Maliens partout où ils sont parce qu'ils n'ont pas de papier. C'est faux.
À l'association malienne des expulsés, le président de cette association se réfère à l'alinéa 4 du communiqué qui évoque le retour, la réadmission et réintégration des migrants en situation régulière. Ousmane Diarra, président de l'AME.
Le Mali n'a pas signé d'une manière, mais de l'autre manière, il a signé. Parce que c'est très très dangereux pour les Maliens. Ça va permettre à l'État européen d'expulser des Maliens dans les conditions légales, parce que le Mali a signé cet accord de réadmission. Dans les clauses même de déclaration conjointe, il y a des accords, il y aura une commission ad hoc qui vont travailler sur l'accord de réadmission et après cette commission, il va à valider la signature de cet accord.
Pour les Maliens, le gouvernement Ibeka, en allant dans le sens de ce communiqué, va compromettre la vie des milliers de Maliens qui vivent grâce aux appuis des migrants.
Le communiqué que nous avons eu est une honte pour le gouvernement et une trahison du peuple malien. Qu'est-ce qui amène d'ailleurs ces gens à quitter le Mali? C'est le désespoir. Le gouvernement n'a absolument rien fait pour donner l'espoir à ces jeunes, à tous ceux qui se sont retrouvés aujourd'hui en Europe, de rester au Mali.
Si le Mali s'est engagé à cette signature, je pense que c'est une dérive nationale. Il y a tellement de Maliens à l'extérieur qu'on ne peut pas imaginer. Il revient maintenant au président de la République lui-même d'expliquer correctement à son peuple ce qui s'est passé réellement avec l'Union européenne en matière d'immigration.
Défendant le communiqué conjoint, le ministre Sila des Maliens de l'extérieur dira qu'il s'inscrit dans la dynamique de la réunion de Valette consacrée à la gestion consensuelle des migrants.
La récente visite de Condors va dans le même sens de chercher les voies et moyens possibles pour s'attaquer aux causes profondes de la migration. Et c'est ce que nous faisons. C'est un communiqué conjoint qui est différent quand même d'un accord. Un accord n'est pas signé.
Comme la polémique s'enflamme de jour en jour et que les ministres ne parviennent plus à convaincre les Maliens, les députés maliens ont interpellé le ministre des Affaires étrangères. Quant aux députés de l'opposition, ils ont introduit une motion de censure contre le gouvernement suite à cette affaire. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Retour sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, 3 ans après. Ce sera le début de notre série sur VOA Afrique. C'est en 2013 que le virus, alors méconnu, est apparu dans le sud de la Guinée. À l'époque, on parlait d'une maladie mystérieuse. Plusieurs familles disparaissaient sans que l'on ait une idée claire de la maladie. C'est le point de départ d'une épidémie qui va toucher d'autres pays de la sous-région. Notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara, s'est rendu à Méliandou, dans la préfecture de Guéquédou, pour VOA Afrique.
Tout a commencé par la maladie d'Émile, 2 ans. Nous sommes en décembre 2013. C'est Augustin Mamadouno, chef de poste médical de Méliandou, qui examine l'enfant malade.
J'ai reçu au poste ici, j'avais reçu un enfant avec son papa. L'enfant s'appelait Émile. Et l'enfant avait la fièvre intense. On avait fait le TDM pour connaître si triste, il avait quel problème. Donc, on a traité. Le premier jour, plus sur le traitement du paludisme, c'est 3 jours. L'enfant a rendu rame.
Émile, décédé, quelques jours plus tard, c'est sa grande sœur Philomène qui rend l'âme après avoir présenté les mêmes symptômes. C'est alors que le village s'interroge. Diables, esprits, sorciers sont accusés d'avoir jeté un mauvais sort.
On est parti chercher les marabouts là. Ils sont venus. La population a appelé les 1 500 plus des coqs, des vaches. Pour travailler les Vlad.
Virus Ebola, encore méconnu, était plus fort que le gris-gris. Après Émile et sa sœur, sa maman enceinte de 7 mois tombe malade puis décède. C'est la panique au village, au moment même où le chef de poste médical inquiet ordonne l'évacuation de la grand-mère d'Émile. 2 jours après son admission à l'hôpital, la malade est morte sous les yeux de ses 3 filles.
Les 3 là sont venus. Avant qu'on finisse l'enterrement, cela a présenté la fièvre. Pape, ça sera. Ils sont partis après. Un jour, 2e jour, ça a été décidé. En ce temps, j'ai appelé MSF.
Devant des décès en série, le village se vide. Enoch est rentré il y a quelques jours, après plusieurs mois passés ailleurs.
On a dit, si on reste ici,
on ne va rien gagner. On dirait qu'il y a la mort. Nous, on ne gagne rien comme agent. Moi, ce que je vais voir, on va aller à Sigri.
Avant son décès, l'enfant de 2 ans a passé quelques jours de traitement chez le guérisseur du village en compagnie d'une dame malade en provenance de la Sierra Leone. Son père, Étienne, accuse l'étrangère d'avoir contaminé son enfant.
Il veut aussi n'aller.
La belle-mère était très d'accord avec la femme qui était venue de la Sierra Leone. Et généralement, quand elle venait saluer la femme, elle avait toujours mon enfant au dos. En réalité, c'est cette femme de la Sierra Leone qui a contaminé mon enfant.
Pour nous, on a cela.
Du retour de Meliandou, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, c'est à partir d'aujourd'hui que les grands électeurs votent pour valider l'élection le mois dernier de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le point avec Timothée Donangmaï.
Les Américains qui sont allés aux urnes le 8 novembre n'ont pas directement voté pour leur prochain président, mais ont plutôt choisi les grands électeurs qui s'acquitteront de cette tâche. Ces membres du collège électoral sont sélectionnés pour voter en faveur du candidat qui a remporté le plus grand nombre de voix dans leur État. Il s'agit de dignitaires ou de militants que le parti souhaite honorer. Leur nombre est égal au nombre des députés et des sénateurs de chaque État. Conséquence, les États les plus peuplés ont plus de grands électeurs que ceux moins peuplés. Les pères fondateurs ont mis en place ce système pour différentes raisons, explique le professeur George Edwards de l'université A&M du Texas. Certains ne faisaient pas tellement confiance au vote du peuple. Cela n'a jamais été fait à grande échelle et donc il n'était pas inhabituel de ne pas se fier à la foule. Cette année, le vote des grands électeurs, simple formalité par le passé, attire l'attention du fait de la possibilité que certains grands électeurs votent contre le choix de la majorité des électeurs de leur État. Ils sont nombreux à faire l'objet d'intenses pressions de la part des partisans de Hillary Clinton pour voter contre le président élu Donald Trump et en faveur de la perdante démocrate. Leur argument, Hillary Clinton a remporté 65,7 millions de voix contre 62,5 millions pour Donald Trump. Monsieur Trump a été proclamé vainqueur avec 306 grands électeurs contre 232 à Madame Clinton. Il faut au moins 37 défections dans les rangs des grands électeurs républicains pour inverser le résultat de la présidentielle du 8 novembre. Dans ce cas, c'est la Chambre des représentants qui choisira le prochain président. Et puisqu'elle est contrôlée par les républicains, tout changement au niveau du vote des grands électeurs ne sera que symbolique. Qu'à cela ne tienne, le débat sur le système du collège électoral s'en trouve relancé. Deux camps pensent qu'il faut éliminer ce système désuet. À nouveau, le professeur George Edwards. Je pense que le collège électoral n'a aucune valeur du tout. Il viole l'égalité politique dans la mesure où tous les votes ne comptent pas de la même manière. Toutefois, plusieurs tentatives de remplacer le collège électoral par le vote populaire ont échoué au Congrès. Aucun doute que le 20 janvier, le républicain Donald Trump prêtera serment comme 45e président des États-Unis.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Lionel Gaïma était à la mise en onde. À la console, c'était Joe Dryden. À la présentation, Nathalie Barge et Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook et n'oubliez pas de visiter notre site internet, c'est voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.